Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec en ce dimanche Pascal, notre membre de la Dream Team, Olivier. Olivier Giraud qui est là. Ça va, Liv?
Salut Thibaut.
Petite lunette aviateur.
Alors, pour tout te dire, je les ai piqués à ma fille.
Mais elles te vont bien.
Je te remercie.
Au programme ce soir, une victoire néerlandaise au Vélodrome. Une phrase qu'on espère ne pas avoir prononcée dans 10 jours pour OM Feyenoord. Non, ce soir, il s'agit de vélo. Dylan Van Baarle a gagné Paris-Roubaix cet après-midi. Le plus rapide de l'histoire. On en parle dans un instant avec notre envoyé spécial et notre membre de la Dream Team, Cyril Guimard. On s'intéressera aussi à nos Français. Il y a eu des... Bon, on ne gagne pas, on n'est pas sur le podium, mais Adrien Petit fait 6e. On ira au Parc des Princes dans un quart d'heure pour du foot cette fois-ci. Suivez toujours, on va prendre l'ambiance avant le Paris Saint-Germain Marseille de ce soir. À 19h30 du tennis, Tsitsipas, prince de Monaco encore. Le grec a remporté le Masters 1000 cet après-midi. On sera avec Eric Salio pour tirer les enseignements de ce tournoi à un peu plus d'un mois du début de Roland-Garros. Et puis à 19h45, l'invité du RMC Sport Show, ce sera du rugby. Le Racing 92, dernier club à avoir rejoint les quarts de finale de la Champions Cup, qui a été bousculé, malmené aujourd'hui face au Stade Français.
RMC Sport Show.
On est ensemble en direct jusqu'à 20h avec vous sur le hashtag RMC Live. Je vous lis aussi sur l'appli RMC, RMC Sport, le direct studio. Vous cliquez, vous pouvez nous envoyer un message pour poser vos questions, par exemple à la Dream Team. Un point sur le direct, c'est du foot. Les demi-finales de la Cup, qui pour rejoindre Liverpool, Chelsea ou Crystal Palace? Salut Johan Bredov.
Salut Thibaut, salut à tous. Et pour l'instant, c'est plutôt Chelsea qui se dirige vers cette finale, la troisième d'affilée. 1-0 pour les Blues face à Crystal Palace à la 73e minute de jeu. Le but de Loftus-Cheek, une belle demi-volée hein, dans la surface de réparation, légèrement déviée par Andersen. Elle a fini dans la lucarne de Jack Butland. 1-0 donc pour Chelsea face à Crystal Palace. Il reste 18 minutes à jouer avant le temps additionnel.
Merci Johan, on te retrouve un peu plus tard. Jamais on n'avait été aussi vite à vélo entre Paris et Roubaix. Dylan Van Baarle a remporté l'édition la plus rapide de la Reine des Classiques aujourd'hui.
Et un petit coup d'œil sur la droite, la route à l'entrée du Vélodrome, histoire de voir si les autres ne sont pas là et ne pas tomber. On commence à serrer le point pour Dylan Van Baarle, mais on ne lâche pas encore tout à fait le guidon pour le Néerlandais. Le dernier virage, la dernière ligne droite, il peut exulter, il peut lever le bras, il peut lever les poings. Et oui, le poing, les bras levés vers le ciel. Dylan Van Baarle, celui qui est le roi de la musique techno dans le peloton, eh bien devient le lauréat de la Reine des Classiques. Aujourd'hui, le freinage... Et il tombe dans les bras de son assistant. Magnifique victoire aujourd'hui de Dylan Van Baarle sur cette 119e édition de Paris-Roubaix.
La une du RMC Sport Show.
Voilà, c'est ça aussi RMC. Toujours une petite info en plus, roi de la musique techno. Bon, je savais pas, moi je suis plus variété française, mais bon, chacun son truc.
Moi je suis plutôt yéyé.
Salut Cyril Guimard.
Bonsoir.
Le druide est là, notre membre de la Dream Team qui était avec nous cet après-midi pour commenter cette course. Et au commentaire, bien sûr, Arnaud Souk, qui est notre envoyé spécial à Roubaix. Salut
ouais,
Arnaud.
Voilà, moi, je dansais sur de la musique colombienne. Ça va, les amis?
Ouais, bah très bien. Quand est-ce que tu dansais sur la musique colombienne? Quand t'étais jeune,
bah,
c'est
pendant
ça,
la course, pendant la... Non, pendant la course. D'accord. Non, mais t'as compris. C'est vrai que c'est un fou de techno. Il est capable de mixer pendant des heures. Et je te disais, voilà, le roi de la techno devient le lauréat de la reine des classiques, la musique classique. T'avais compris le
titre? Oui, mais bien sûr. Non, j'avais absolument pas compris, mais merci de l'explication. Bah, écoute,
enfin, on a compris.
Bon, en tout cas, Olivier et Cyril et Arnaud, dans un premier temps, on attendait un Néerlandais, mais pour le coup pas le roi de la musique techno. On attendait plutôt Mathieu Van Der Poel qui termine 9e. Van Baarle, c'était grosse cote quand même, Cyril.
Une bonne cote, pas une très grosse cote. Il a quand même un palmarès derrière. On l'a vu sur Merci. Le début de saison, il était très bien. Il a déjà quand même terminé cette année deuxième du Tour des Flandres. Donc vous savez, souvent il y a des coureurs qui arrivent à faire le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix. Bah, lui il l'a raté, il fait seulement deuxième et premier. Oui. Donc c'est pas quelque chose de par hasard. D'un autre côté, il faut quand même savoir que l'an dernier, Alaphilippe lui a réglé son compte sur les championnats du monde.
Oui, il est vice-champion du monde.
Mais il est vice-champion du monde quand même, donc c'est pas quelqu'un qu'on découvre. Alors c'est vrai que
au niveau sur un parcours flandrien.
Oui.
En plus.
Et c'est vrai que le grand public, bon, il y a tellement de courses maintenant, tout est dupliqué, bon, qui fait que même nous, on a du mal à suivre. Il y a trois courses par jour. Bon, bref. Et puis bon, il y a les stars qui bien sûr que l'on connaît, on va dire les Alaphilippe, Van der Poel, Van Aert, mais ceux qui sont un petit peu en deuxième rideau, bah, ils passent un petit peu inaperçus, sauf le jour où la porte s'ouvre, ils mettent le pied, ils poussent la porte et ils vont gagner. Et là, eh bien, ils sont reconnus, surtout quand vous gagnez Paris-Roubaix, comme un vrai grand champion.
La star du jour. Olivier.
Ouais, la course, quand même, elle était parfaite pour lui aujourd'hui. Quand tu vois le déroulé, déjà, il faisait beau, hein, donc c'était l'enfer dans la poussière. Mais on sait que ce n'est pas un gros finisseur, un gros sprinter. Est-ce que le fait que Van Aert ait crevé deux fois l'a aidé quand même? Parce que Van Aert, il avait l'air bouilli d'avoir à revenir à chaque fois.
Oui, mais après, c'est la gestion des efforts en fonction des circonstances. Sur un Paris-Roubaix comme celui d'aujourd'hui, peut-être Van der Poel, j'ai bien peut-être Van der Poel, il n'y a pas un coureur qui à un moment n'a pas eu un problème. Van Baarle, il est pris dans une chute à 150 km de l'arrivée avec le coureur qui avait fait deuxième l'an dernier Vermeersch. Et donc, du premier groupe, il se retrouve dans le deuxième groupe qui va devenir un avantage pour lui. Parce que se trouvant dans le deuxième groupe, alors que c'est l'ensemble de son équipe auquel il lui-même y participait, qu'on crée la cassure dans le peloton, et après c'est eux qui ont assumé, y compris Van Baarle. Quand il a chuté et qu'il s'est retrouvé dans le deuxième groupe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti l'oreiller, il a sorti le canapé, et il a attendu qu'on le ramène tranquillement devant. C'est-à-dire que quelquefois, d'un inconvénient, dans la mesure où vous n'êtes pas blessé, vous n'avez pas de problème particulier, derrière vous allez tout simplement, le vélo c'est de la voile, je le dis toujours, donc vous vous planquez au milieu, vous donnez plus un coup de pédale, et puis à un moment, tout va se regrouper, et là il va re-rentrer dans le système de course. Et là on va se rendre compte qu'il a une petite jambe une petite jambe au-dessus des autres, pas de tous, parce qu'un Mahorić, il avait tout ce qu'il fallait, mais lui aussi il a eu... Alors c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez un problème, à quel moment, des problèmes à certains moments peuvent avoir... Le même problème, à certains moments, peut avoir des conséquences, on va dire, dramatiques, entre guillemets. Le sport, c'est jamais dramatique, sauf si on se blesse. Mais qui va vous impacter plus qu'à un autre moment. Vous prenez Mahorić.
Il est
reparti, il était déjà parti avant le 150e kilomètre. Ouais. Et là, à un moment où ça peut aller au bout, là, il crève. Mais Van Baarle n'est pas rentré.
Ouais, et c'est pour ça que ça donne une course magnifique. Et je rebondis sur ce que dit Cyril, Arnaud, et ce que disait aussi Olivier. Cette course, elle est aussi particulière parce que on n'en a pas l'habitude, mais en fait, elle a démarré très tôt. Et Van Baarle, lui, l'Ineos, ça récompense un truc de fou qui a tenté son équipe très loin de l'arrivée, Arnaud.
Alors son équipe s'est retrouvée un petit peu malgré elle finalement à tenter ce fameux coup dont tu parles. En fait, il y a eu un coup de bordure juste avant d'arriver à Saint-Quentin dans l'Aisne, placé à 210 km de l'arrivée, c'est-à-dire que à ce moment-là les coureurs n'avaient parcouru que 47 km depuis le départ. Il y avait pas mal de favoris: Van der Poel, Van Aert, Asgreen, Christophe Laporte, Stefan Kung, qui était en train de filocher tranquillement en queue de peloton. Cyril dit le vélo c'est de la voile. À ce moment-là, justement, ils étaient tranquillement assis au fond de la classe pour éviter d'avoir des efforts à faire. Sauf que Ineos avait prévu le coup, s'était dit faudrait peut-être être placé à cet endroit-là parce qu'il pourrait, pourquoi pas, y avoir une petite bordure, une petite tentative de bordure. Et la bordure, ils se sont retrouvés presque à la faire un peu malgré eux. Ce sont eux qui l'ont faite. Et à ce petit jeu-là, finalement, il n'y a que l'équipe Quick-Step et l'équipe Total Direct Energy qui a vraiment été représentée de manière incroyable, assez incroyable devant. Et donc cette équipe Ineos qui avait l'intégralité de ces bonhommes qui étaient devant. Après, il y a eu divers incidents de course qu'ont fait qu'ils n'ont pas pu aller au bout. Mais c'est vrai que voilà, pendant 100 km, ils ont vraiment mis le bazar. Et si aujourd'hui on arrive avec une moyenne de 45,7 km/h à la fin, c'est aussi parce que Ineos a vissé dans cette première partie de course. Juste pour info, c'est la troisième fois seulement dans toute l'histoire de Paris-Roubaix que eh bien, la course se conclut à plus de 45 km/h de moyenne. Donc ça en dit long.
Oui, bah tiens, justement, je voulais le faire un peu plus tard, mais on va le faire maintenant.
Ah, tu viens
non, mais il n'y a pas de souci d'en donner l'explication. 45,7 km/h de moyenne, donc le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire. Donc l'explication, principalement, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut lier aussi ça à la météo? C'est vrai que ça a été un
peu. Non, ça ne peut pas être lié qu'à cela. Mmh. Si vous allez vent de face avec la même intensité de course,
il ne se passe rien. Beaucoup, hein.
Pourquoi que je. Bon, là, vous avez un vent portant. Un vent portant et qui fait que ce vent portant va vous emmener. Mais moi, je pense que le coup de bordure qui a été fait, qui était hier, pas un coup de bordure, il n'y avait pas assez de vent pour faire de la bordure.
Oui, voilà.
Voilà. Et il y a eu une accélération, la première accélération qui a été d'un des coureurs qui était un des plus forts aujourd'hui, mais qui a eu quelques petits problèmes, c'était Ganna. Tout simplement parce qu'il y a les oreillettes et que ça va même plus loin. Vous pouvez presque savoir avec les GPS où sont placés tous les coureurs dans le peloton. Ça, il faut pas le dire. Bon, parce qu'il y en a qui captent toutes les ondes. Bon, et à un moment, quand vous avez Van Der Poel et Van Aert qui sont, on va dire, dans la deuxième moitié, puisque le peloton s'est carrément coupé en deux, il y en avait 70 devant, 80 derrière. Donc, même si vous étiez en 80e position, la cassure s'est faite, point. Mmh. Donc, s'il n'y avait pas les oreillettes, je suis pas sûr que Ineos aurait été en capacité de dire rouler pour éjecter. Ils ont éjecté 80% des favoris. Donc c'est pas par hasard. Mmh. Ça veut dire que derrière, si vous n'avez pas les oreillettes, ça se passe pas. Ou alors faut descendre, faut que le coureur descende pour dire ah ben tiens, Van Der Poel il est 100e, Van Aert il est 104e. Donc les directeurs sportifs, ils ont la télé, ils ont tout, ils ont toutes les informations.
Ils ont trop de trucs en gros, en résumé ou pas, Cyril? Oh
bah, bien ouais. Trop. Moi ce que je voudrais, c'est que
qu'on enlève tout ça.
Non,
c'est
non,
ça.
Mais attendez. Oui, mais quand vous faites un 10 000 mètres en athlé. Non, mais quand vous faites un 10 000 mètres.
Non, mais c'est pas ça qui explique qu'on a 45 km/h de moyenne aujourd'hui.
Faut mais quand si, même, c'est le vent même... portant.
Non mais oui, ah, si, Arnaud, d'accord, attends, mais c'est pas les autres. Non mais c'est pas les oreillettes, je veux dire.
Non, parce qu'on non, 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 gars, c'est pas ce que je veux dire, Arnaud. C'est pas les oreillettes qui font
un
que.
Peu quand même, là,
sauf que quand tu mets en route et que après t'as deux ou trois équipes qui roulent de concert, la moyenne va monter. Mais tu mets un vent de face. Je veux dire, au bout de 15 bornes, ça s'arrête devant. Hein.
Et sans les oreillettes, en plus, ce serait pas arrivé.
Et sans la capacité de si, il y aurait une autre course. Mmh. Mais de toute façon, je vais vous dire, Paris-Roubaix, quand vous prenez les classements, il y a une hiérarchie qui se fait.
Oui.
Il y a ceux qui tombent pas, ceux qui crèvent pas, ceux qui ont pas de problème, ceux qui ont les pannes de cuisse. Mmh. Et il émerge à la fin les meilleurs. De ceux qui ont eu le moins de problèmes.
On parle de la technique, et les meilleurs, des appareils. Oui. Vas-y Arnaud, conclue s'il te plaît.
Et les meilleurs de ceux qui ont eu le moins de problèmes, quand tu regardes le top 10, c'est en gros les meilleurs qu'on avait cochés au début en expliquant qu'ils étaient favoris, à une exception près, Casper Asgreen.
Et justement, Van Baarle qui s'impose devant Wout Van Aert et Stephen Kung. Van Aert aussi qui était l'un des principaux favoris. On va l'écouter à ton micro, justement. Il est question, Arnaud, de problèmes mécaniques, Wout Van Aert.
Oui, malheureusement, c'est aussi une partie de Paris-Roubaix, non? Je pense. Oui, c'est difficile d'arriver ici au Vélodrome sans aucun problème. Donc, je pense le plus important est être calme toujours. Et je dois changer quelques fois de vélo, mais à la fin, j'étais pas avec l'attaque de Van Baarle et Lampard, donc c'était ma faute, mon erreur. Et après, quand j'étais derrière avec Kung, on a fait tous et il a juste roulé plus loin de nous, donc le meilleur a gagné.
Le Belge Wout Van Aert, sport, hein, au micro RMC d'Arnaud Souk. Il avait l'air très fort, Van Aert, quand même. Ouais. Arnaud, tu confirmes?
Ah bah oui, ouais, il avait clairement l'air très fort. Et d'ailleurs, il le dit un petit peu quand on lit entre les lignes dans ce qu'on vient d'entendre. Alors bon, oui, il y a eu cette histoire de Covid, mais croyez qui voulait bien croire, effectivement, qu'il n'était qu'à 90% de ses possibilités, même si ça faisait faisait deux semaines et demie qu'il avait contracté le Covid. Non, là où je voulais en venir, c'est que quand on lit un petit peu entre les lignes de ce qu'il nous explique, Wout van Aert, il estime aussi avoir fait une toute petite faute tactique au moment où justement Dylan Van Baarle est sorti de ce groupe des favoris, et au-delà effectivement des ennuis mécaniques, il en a eu plusieurs pendant la course. Voilà, c'est peut-être une petite faute tactique aussi qui lui a coûté la victoire. Et après, quand il a réagi avec Stuyven et Kung, il était déjà trop tard, sachant qu'en plus Stuyven a eu à son tour un ennui mécanique qui l'a empêché de collaborer avec Kung et Van Aert, et donc voilà, ce groupe n'a jamais pu revenir à l'avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il était extrêmement fort, Wout van Aert. Il était bien meilleur par exemple qu'en Mathieu van der Poel, ça il y a absolument aucun doute là-dessus.
Aucun doute. Il est 19h15, vous êtes sur RMC, c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud, avec Cyril Guimard, avec Arnaud Souk. On débriefe ce Paris-Roubaix remporté aujourd'hui par Dylan Van Baarle. Dans quelques instants, on va s'intéresser aux Français, et notamment pas ceux qu'on attendait, vous allez comprendre dans quelques instants. Mais ce soir, c'est un peu exceptionnel, c'est un jour un peu exceptionnel. Il y a un match de foot ce soir, Olive, je ne sais pas si t'es au courant, un petit match.
Un petit match.
Match de clôture de la 32e journée de Ligue 1.
C'est quoi comme match ?
Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Le premier contre le deuxième, et on va...
Non, il y a le PSG et il y a Marseille, mais c'est pas le premier contre le deuxième, il y a 12 points d'écart.
Oui, mais regarde, il y a pas classement. Match. Attends.
Et ça reste ça au classement. Ça reste ça au classement, avec 3 points d'avance.
C'est la réalité.
C'est la réalité du classement.
3 points d'avance pour Marseille sur le troisième.
Et avant de revenir sur Paris-Roubaix, on va faire
c'est
une minute
match,
de foot d'accord. Dans le RMC Sport Show.
RMC Sport Show.
La minute foot.
Le coup d'envoi, c'est dans une heure et demie, puis ce sera sur RMC, évidemment, le match événement. Et on va retrouver au Parc des Princes l'un de nos envoyés spéciaux, Arnaud Valadon, déjà en place. Salut Arnaud.
Salut Thibaut, salut Cyril, salut Olivier. Salut, effectivement, les Marseillais qui pénètrent à l'instant sur la pelouse pour la reconnaissance. Quelques sifflets, notamment pour Matteo Guendouzi. Ce sera une ambiance forcément particulière, puisqu'il y aura encore une nouvelle fois une grève des encouragements du collectif Ultra Paris dans le virage Auteuil. Toujours fâché, en colère après l'élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Puis même après la déroute à Monaco qui en a suivi, ils ne vont pas chanter, ils ne vont pas encourager leur équipe. Il pourrait y avoir une nouvelle fois quelques banderoles qui visent la direction parisienne, parce que le CUP exige des actes. Paris qui pourrait faire un grand pas en cas de succès face au rival marseillais vers le titre. Il pourrait être sacré dès mercredi à Angers, ou alors le week-end prochain contre Lens. Et en face, il y a l'Olympique de Marseille qui peut réaliser une véritable bonne opération au classement. Ils ont 3 points d'avance sur Rennes qui a perdu vendredi. Ils pourraient, même en cas de nul, accroître. Et peut-être en cas de victoire, c'était lors de la saison dernière, ils étaient venus s'imposer dans un Parc des Princes avec 3000 spectateurs seulement pour cause de jauge. Les Marseillais peuvent faire une réelle opération au classement, et vous l'entendez peut-être derrière, quelques échanges aimables envers les Marseillais qui sont actuellement en reconnaissance pelouse ici au Parc des Princes.
Merci Arnaud, on va retourner au parc. Ça te fait rire, qu'est-ce qui te fait rire, Cyril? Ouais,
on va reconnaître le terrain, c'est pas Paris-Roubaix le
Parc des Princes. Il n'y a pas de pavé là.
Oui, et puis c'est pas au Vélodrome en plus ce soir, on est au Parc des Princes.
Il y a une chose qui me choque quand même, c'est qu'on parle des clubs de supporters qui exigent. Au nom de quoi ils peuvent exiger?
Alors, bon, ce que
le débat a déjà été fait.
C'est qu'on fasse le débat, Cyril, mais un autre jour. Hein. Si tu veux, tiens, reste là, à 20h, il y a l'after autour de Gilbert Bribois, et je te propose de rester. Tu auras tout le loisir.
Bah, je verrai, je ne voudrais pas que ma voiture brûle quand même.
Non, quand même. On va revenir au vélo dans un instant, justement. Mais d'abord, le foot, c'est aussi le direct avec la demi-finale de la Cup en Angleterre, Yoann Bredov.
Et le break est fait pour Chelsea. 2-0 grâce à un but de Mason Mount, 1-2 avec Timo Werner. Et Mount, qui est avec son plat du pied droit, vient tromper Jack Butland, le gardien de Crystal Palace. 2-0 pour Chelsea face à Crystal Palace. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Ça sent très bon pour les hommes de Thomas Tuchel pour rejoindre Liverpool en finale de cette FA Cup.
Merci Yoann, on retourne te voir dans quelques minutes, et donc on retournera aussi au Parc des Princes, hein. Désolé Cyril, dans un peu moins d'une demi-heure vers 19h45 pour avoir les compos. Dès que les compos officiels tombent, parisiennes, marseillaises, vous les aurez sur RMC aux alentours 19h45. Retour au vélo dans le RMC Sport Show, toujours avec Olivier Giraud, Cyril Guimard, Arnaud Souk, notre envoyé spécial à Roubaix. Juste avant de parler des Français, un mot quand même de Mathieu Van Der Poel. C'était l'un des favoris, le néerlandais, c'était celui qu'on attendait aujourd'hui. Il termine que 9e, lui qui a gagné le Tour des Flandres il y a 15 jours devant justement Dylan Van Baarle. Arnaud, une explication déjà à ce que tu as pu observer aujourd'hui, pourquoi il fait que 9e finalement?
Alors déjà, on avait observé la semaine dernière en débriefant l'Amstel Gold Race que, en dépit de sa quatrième place, il avait été loin quand même d'être aérien, Mathieu Van Der Poel. Mais on avait peut-être mis ça justement sur le compte de ce Tour des Flandres qui a été absolument dantesque pour lui la semaine d'avant. Et c'est vrai qu'on aurait pensé qu'il soit aujourd'hui en meilleure forme. Après, c'est un garçon qui est assez entier et qui, voilà, à chaque fois qu'il a eu des défaillances, Mathieu Van Der Poel, si tant est qu'on puisse dire qu'aujourd'hui il a eu une défaillance, c'est un garçon qui voilà, qui ne ment pas, qui ne se cache pas, et c'est un garçon qui est comme ça, qui est capable de coups absolument extraordinaires, capable également et bien de journées comme ça de moins bien où cela finalement n'étonne personne parce que ça se voit. Et c'est vrai que il a été caché toute la journée et c'était pas franchement un super signe de sa part à Mathieu Van Der Poel. Bon, voilà, il reviendra l'année prochaine et c'était sa deuxième participation. C'est dur aussi Paris-Roubaix, il faut vraiment voilà le sentir, il y a quelque chose, on gagne pas Paris-Roubaix comme ça.
Cyril, il le gagnera un jour Paris-Roubaix ?
Oui, oui, ça, il le gagnera un jour, peut-être plusieurs fois d'ailleurs. Alors, il y a une explication à son... Non, pas défaillance. À son manque de compétitivité pour aller chercher, que ce soit à l'Amstel ou sur Paris-Roubaix, la gagne. Alors, il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière. Et aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, il paye la facture des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, je ne sais pas si vous voyez les images. Il oublie et il se retrouve 10 mètres plus bas.
C'est-à-dire que le pic de forme, c'est
ça. Non, c'est pas ça le problème.
Non, je comprends
pas.
C'est
que derrière, il va avoir une préparation jusqu'à aujourd'hui qui a été totalement perturbée. Il revient, parce qu'il a quand même, bien tapé, il a problème de dos, autre problème. Et il reprend l'entraînement, il va reprendre sa saison de cyclocross beaucoup plus tard, d'ailleurs plus tard que Wout Van Aert. Et au bout de 4 ou 5 cyclocross, il est obligé de réarrêter pratiquement pendant 3 semaines, 1 mois. C'est-à-dire que depuis les Jeux, il n'a pas eu des plages de travail avec de la continuité pour être au top niveau, ce qu'il faisait les autres années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en déficit de préparation physique pour être à ce niveau tous les jours. Alors, il peut y être un jour sur du jus parce qu'il va se passer un certain nombre de choses.
Parce qu'il est fort.
Mais, oui, parce qu'il a beaucoup de talent. Mais il y a un moment, le talent ne suffit pas. Il faut vraiment que derrière, tu aies un plan de travail qui a été bien respecté pour te permettre de récupérer de course en course.
Et pour conclure sur Mathieu Van Der Poel, j'ai une histoire assez dingue à vous révéler. C'est le petit-fils de Raymond Poulidor. Non, je plaisante avec ça.
C'est pas
ça. C'est vrai. Non, mais tu vois,
c'est le record de participation.
C'est le genre de truc qui est répété à chaque fois.
Non, mais c'est Poulidor qui lui a appris justement cette volonté de gagner.
Une histoire aussi sur Yacine Bamou. Bref. 19h22, le RMC Sport Show, toujours avec Olivier Giraud, Arnaud Souk et Cyril Guimard. On va s'intéresser aux Français. Je vais commencer par Olivier Giraud, ancien sportif, et après on va laisser la parole aux cyclistes. Est-ce que quand un Français termine sixième de Paris-Roubaix, c'est un bon Paris-Roubaix pour les Français ? T'en penses quoi, toi, Olivier ? Parce que la réponse des cyclistes, je la connais, ça va être oui, c'est une très bonne performance.
Bah, ça dépend pour qui. Ça veut dire que si t'es un Français, que t'es champion du monde ou que tu as une saison où tu veux gagner des titres, eh ben non. C'est pas un bon résultat, mais pour certains, être sixième de Paris-Roubaix, c'est un très bon résultat, faut l'admettre. Et actuellement, je pense que le cyclisme n'a jamais eu autant de superstars qui arrivent jeunes et moins jeunes, comme Van Barle. C'est-à-dire que le niveau du cyclisme mondial, là, il est juste énormissime.
Adrien Petit, c'est lui qui termine sixième, premier français. Laurent Pichon, deuxième français, termine huitième. Arnaud Souk, Cyril Guémard, c'est un Paris-Roubaix réussi pour nos Français ou pas?
Moi, je
Excuse-moi Arnaud, c'est un Paris-Roubaix réussi pour ces deux coureurs-là, compte tenu de leur niveau.
Ok, Arnaud. Et là, tu vas développer, Arnaud.
Moi, j'ai pas mieux à dire.
Ok, vas-y, Cyril.
Pichon, aujourd'hui, il a eu son bâton de maréchal, quoi. Ce qu'il fait en partant très très tôt, il se retrouve avec Maoric, etc. Il a été à la limite, il s'est accroché, il s'est fait mal, ça brûlait de partout, et il finit encore à être là dans le final. Mais cette performance-là, il ne va pas la rééditer, c'est fini. Pour ça que je dis que c'est son bâton de maréchal. Okay. Adrien Petit, on est un peu dans le même style, sauf que lui, j'ai presque envie de dire, c'est un roubaisien. c'est sa course fétiche. Ouais. Et tous les ans, sauf accident, on va le retrouver à 20 bornes ou 30 bornes de l'arrivée, dans le groupe des 15 meilleurs. Ou des 20. Et puis un jour, il vient faire une place, etc. Mais sur le plan français, aujourd'hui, on avait Turgis qui pouvait jouer, qui a été pris dans une chute et qui donc a été contraint à l'abandon. Et puis Laporte qui est sur ce type d'épreuve aujourd'hui, vraisemblablement le français qui peut être le plus performant, entre Gamel, après Eddy Van Aert qui a également des problèmes pour rentrer, après la trouée d'Arambert, il était pendu. Donc, mais voilà, bon, mais
on a une déception potentielle, si je puis me permettre, Cyril. C'est Florian Sénéchal, oui, voilà, alors qui est 13e, dont on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé dans un secteur.
Mais on ne sait pas pourquoi il a disparu.
Dans le final, on sait pas trop pourquoi il a disparu. On va pas vous mentir, il aurait certainement pas gagné compte tenu du numéro de Dylan Van Barle, mais c'est vrai que voilà, on aurait pu attendre légitimement un Florian Sénéchal un petit peu plus haut. Et là, tu m'aurais demandé Florian Sénéchal 6e, est-ce que c'est un Paris-Roubaix réussi? Je t'aurais dit bah non, parce que je t'aurais dit bah non. Florian Sénéchal 3e, je t'aurais dit oui, c'est un Paris-Roubaix réussi. Adrien Petit 6e, oui, tu peux pas dire que ça soit pas un Paris-Roubaix réussi. Alors, pour ce français là en tout cas.
On aura l'occasion et ils auront surtout l'occasion de faire mieux ou aussi bien pour les coureurs dont on vient de parler, parce que Arnaud, c'est une grosse semaine là Paris-Roubaix, en fait c'était le début d'une grosse semaine là pour les coureurs de classique.
Alors même si on n'est pas tout à fait dans la même configuration sur les deux prochaines classiques que sont la Flèche Wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche, puisque ce sont des classiques voilà qui se rapprochent un petit peu plus de, on va dire, des étapes de montagne sur le Tour de France, pour vraiment faire la faire très schématique, mais vraiment très très schématique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va retrouver plutôt des profils de grimpeurs. Ce sont des classiques dites ardennaises, donc on n'aura plus du tout de pavés. On aura des profils de grimpeurs type Tadej Pogacar, type Julian Alaphilippe, des coureurs comme Marc Hirschi, des coureurs comme Primoz Roglic. Voilà, on va retrouver, on va dire, des coureurs qu'on a plus l'habitude de voir sur le Tour de France, sur ces classiques-là. Donc là, vous oubliez, à quelques exceptions près, les coureurs qu'on a vus aujourd'hui. Vous en prenez beaucoup d'autres, dont ceux que je viens de vous citer, et vous les mettez pour se jouer la victoire.
Et là, Cyril, si Julien Alaphilippe fait 6e de la Flèche Wallonne, ce ne sera pas une Flèche Wallonne réussie pour les Français.
Alors, Julien effectivement, si on bascule, il fait 6e de la Flèche Wallonne et 4e de Liège-Bastogne, ça sera un échec. Et il y va pas pour ça d'ailleurs. Et c'est
il
là
va
que...
pas pour ça.
Non, mais je dis, il va pas pour ces places-là. Il va pour gagner.
J'y mets une petite astérisque à ce que tu dis. Julien Alaphilippe, s'il gagne la Flèche Wallonne, deviendra le recordman de victoire avec Alejandro Valverde. Voilà.
Eh oui, en France, on a la chance d'avoir un Alaphilippe, double champion du monde. Et je parle pas de tout le reste sur ces courses-là. Oui, on peut aller chercher la gagne avec. Avec Julien, mais j'ai presque envie de dire seulement avec Julien, puisque je crois que Godu et Thibaut Pinot ne seront pas là. Enfin, ceux qui pourraient sur ce type de parcours, il y a Cosnefroy qui peut effectivement qui peut jouer dans la cour des grands.
Pour aller plus loin en tout cas, avec Cyril Guémard, avec Arnaud Souk, rendez-vous demain sur RMC dans le podcast Grand Plateau, comme tous les lundis, où vous serez là, hein, les gars, pour revenir sur ce Paris-Roubaix et vous projeter un petit peu plus sur ces classiques qui arrivent. Merci Arnaud Souk, merci Cyril.
Merci les amis.
Olivier,
merci. En tout cas, ils m'ont pas rassuré pour le Tour de France. Hein.
Bon, attends, oulala, on aura le temps d'en reparler. Bonne soirée les gars, 19h27.
On aura le débat d'ici là.
Avant de retourner au Parc des Princes dans une vingtaine de minutes, prends les compos, Olive. C'est terminé entre Chelsea et Crystal Palace. Johan Breda, votre demi-finale de la Cup.
Et oui, victoire 2-0 de Chelsea face à Crystal Palace. Les buteurs Loftus-Cheek et Mason Mount. Chelsea qui rejoint sa troisième finale consécutive en FA Cup après les deux dernières perdues contre Arsenal en 2020, contre Leicester en 2021. Ce sera contre Liverpool et ce sera à suivre le 14 mai prochain.
Et ce sera sur RMC, bien sûr. Merci Johan, passe une bonne soirée. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud et dans un instant, Eric Salio en direct de Monte Carlo. Stefanos Tsitsipas a encore gagné le Masters 1000. On fait un point à un peu plus d'un mois de Roland Garros. A tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Thibaut Jean-Grande.
Avec Olivier Giraud ce soir, on est là comme tous les dimanches soirs jusqu'à 20h pour revenir sur le meilleur de l'actu omnisport du week-end dans un peu plus d'un quart d'heure. Invité du RMC Sport Show, un joueur du Racing 92 qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup. Ils se sont fait peur, les Racing Men. Je sais pas si t'as vu Olivier, ils avaient gagné largement à l'aller. Ils recevaient le Stade Français qu'ils avaient tapé deux fois de suite et ils étaient menés à la mi-temps alors que le Stade Français était à 14. un peu trop sur deux, peut-être, je sais pas, en posant la question.
C'est difficile de battre trois fois de suite la même équipe quand même. Ouais.
Ah, ils l'ont fait, pourtant. D'ailleurs, il y aura pas mal de clubs français dans ces quarts de finale de Champions Cup. On tournera au Parc des Princes dès qu'on a les compos, parce que Paris Saint-Germain, Marseille, c'est l'affiche de la 32e journée de Ligue 1. Ce sera ce soir à 20h45. D'ici un peu plus de 10 minutes, on aura les compos officiels et on retrouvera Jeannot Rességuier sur place pour nous les donner avant l'after à 20h. Mais tout de suite, place au tennis. Tsitsipas, deuxième à la suite, à nouveau prince de Monaco. Il a remporté aujourd'hui le Masters 1000 de Monte Carlo.
Mais pour l'instant, il n'arrive pas à faire la différence. Il se sent peut-être fort. Il est peut-être transpercé la part Fokina. Non, ça ne suffit pas. Fokina, qui, avec son coup droit, maintenant va monter au filet. Attention, le passing de revers. Oh, volée plongeante et les fautes. Et c'est gagné pour Stefano Tsitsipas. Les deux joueurs sont à tête. Sont à terre. C'est une image fantastique. Allongé sur le dos, Tsitsipas savoure. Et Fokina qui peine à se relever. Il a tout donné à l'image de ce plongeon magnifique sur cette balle de match. Mais voilà. Tsitsipas était le plus fort. Victoire en deux manches.
La deuxième période du RMC Sport Show.
Et c'était en direct sur RMC, évidemment, cet après-midi avec Eric Salio au commentaire qu'on retrouve ce soir sur place en direct. Salut Eric.
Bonsoir à tous.
Salut Eric.
Alors je sais pas pour toi Olive, mais quand on entend Eric nous commenter Monte Carlo, la terre battue, le soleil, il y a une petite odeur de Roland Garros déjà, non? Un peu.
Bah complètement, et c'est surtout avec le public, tu sens vraiment l'odeur de Roland Garros. D'ailleurs, tout le monde ne pense qu'à ça, je crois.
Eric, Tsitsipas qui s'impose pour la deuxième année de suite à Monte Carlo. Déjà, on peut commencer par ça, faire ce qu'il vient de faire, ça vous place un homme, hein.
Ouais, et puis surtout cette victoire tout à l'heure, elle a une saveur différente parce que l'an passé, c'était l'huis clos, c'était le cimetière comme l'avait décrit Benoît Paire lors de sa conf de presse, et c'était glauque, faut dire des choses, il y avait pas de tribune, c'était une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, il y avait du public, il y avait tous ses proches, sa famille, et il y a eu une belle baston, croyez-moi, parce que ce Alejandro Davidovich Fokina, c'est un drôle de gaillard, et d'ailleurs en conf de presse, il a dit, hein, si j'avais pas eu un coach qui s'est occupé de moi, je serais devenu sûrement un bad boy. Et le bad boy, bah c'est à l'image de ses chaussettes, il a une chaussette noire, une chaussette blanche, c'est toujours comme ça. Et il dit, c'est le seul problème, c'est quand je joue Wimbledon. Là, j'avoue, je sais pas comment faire, je vais essayer de trouver une solution. Non, c'est un drôle de garçon, sauvage. Et il a bien failli emmener Tsitsipas dans un troisième set, et je pense que ça aurait pu au public, mais bon, Tsitsipas était suffisamment costaud dans sa tête pour boucler l'affaire en deux.
Et d'ailleurs, on reparlera dans quelques instants de ce finaliste, Davidovich Fokina, qui a sorti Djokovic. On en reparlera dans quelques instants, mais d'abord pour continuer sur Tsitsipas qui remporte son deuxième Monte Carlo de suite. 6-3, 7-6 aujourd'hui, mais il revient de très loin, donc pas aujourd'hui avec le score que je viens de donner, mais son quart de finale contre Schwartzmann vendredi, assez incroyable ce match, et d'ailleurs peut-être fondateur pour la suite de cette saison sur terre.
T'as raison, c'est là qu'il gagne le tournoi vendredi soir, parce que c'était un match totalement insensé contre Diego Schwartzmann. Il était totalement en contrôle, 6-2, 5-2, on était en train de ranger les ordinateurs, de couper les lignes, d'aller au gala du vendredi soir, qui est très réputé ici à Monte Carlo. Et puis le match est devenu fou. Schwartzmann s'est accroché, Tsitsipas a totalement disjoncté, perdu pied, mené 4 jeux à 0 au troisième set, balle de 5-0, il la sauve, et c'est peut-être le déclic, et ensuite il aligne 6 jeux d'affilée, le match se termine à 22h50. Ça avait laissé des traces physiques, mais sa chance, c'est que le lendemain, il affronte Zverev, qui lui aussi était très entamé après un combat très violent contre Yannick Sinner. Donc finalement, les deux dernières matchs ont été les plus simples, entre guillemets, mais c'est la beauté de la terre battue. Ce sont des combats fantastiques où les retournements sont possibles. Ce n'aurait pas été le cas à Nianwell Somemi, j'en suis convaincu, mais là, sur terre, tu peux toujours t'accrocher, tu trouves des solutions, une petite amortie, un truc un peu inhabituel, et chapeau à Tsitsipas qui a gardé son calme, parce que je peux te dire qu'il y a un moment, il a même frôlé le carton rouge sur une action totalement anodine, sur un retour de service de Schwartzmann qui sort, et il est tellement rageux, Tsitsipas, que voilà, la balle sort et il frappe comme un sourd en direction de Schwartzmann. Heureusement, il ne le touche pas. Ah oui. C'était totalement involontaire. Et Schwartzmann a regardé l'arbitre. Il lui a dit, tu dis rien là? Tu dis rien? Il n'y a pas rouge là? Et l'arbitre a dit, je peux pas. Et ça a sauvé finalement Tsitsipas.
Ouais, et d'ailleurs, pas sûr que si c'était Tsitsipas, il s'en serait aussi bien sorti. Olivier Giraud.
Oui, peut-être, oui.
Olivier.
Eric, On pensait en avoir fini avec Nadal. Et là, il y a quelques semaines, il y a un petit jeune qui arrive et qui s'appelle Alvarez.
Ouais. Alcaraz.
Là, il y a celui-là qui arrive, Fokina. Ouais. On va pas en finir de ces Espagnols, en fait. Et la question que je voulais te poser, c'était avec le retour du public, est-ce qu'on va pas avoir un des plus beaux plateaux et plus beaux niveaux de Roland depuis très longtemps?
C'est ce qu'on souhaite. En plus, Roland Garros va inaugurer ses night sessions avec full capacité, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut donner des ambiances fantastiques parce qu'on se souvient tous de la demi-finale Nadal-Djokovic qui s'était achevée devant 5000 personnes. Alors que, avec le couvre-feu, normalement, ils auraient dû vider le stade à 21h, je crois, ou 22h. Non, ça peut être fantastique. Maintenant, il faut que le casting soit réuni, Olivier. Parce que pour l'instant, Nadal, on n'a pas de nouvelles fraîches. Il s'est déchiré une côte à Indian Wells.
Ouais, il n'était pas là à Monte Carlo.
Et il n'est toujours pas rétabli. Il ne jouera pas la semaine prochaine à Barcelone, qui est pourtant l'un de ses tours chéris. Mmh. On l'attend début mai à Madrid. Mais dans quelles conditions? Parce que, d'après ce que je crois savoir, il n'a toujours pas retapé la balle. Il faut que ça cicatrise. C'est une sorte de déchirure intercostale qui est très douloureux. D'ailleurs, il disait à Indian Wells, j'ai l'impression qu'on me met des aiguilles au niveau du cœur et j'ai croisé son attaché de presse en début de semaine. Oui, il n'est pas apte pour l'instant. Il n'est pas apte. Donc, Nadal, point d'interrogation. Et le deuxième point d'interrogation, évidemment, vous voulez qu'on y vienne, c'est Novak Djokovic, bien sûr.
Parce que lui, physiquement, enfin, ça va, pas de blessure. Il a joué ce Masters 1000 de Monte Carlo, sorti d'entrée. Mais c'est vrai que on s'est tout de suite inquiété, battu d'entrée, mais il est battu d'entrée par Davidovich Fokina. Donc finalement, Eric, quand on voit le parcours du jeune espagnol dans ce Masters 1000, on se dit que finalement, Djoko qui a été battu en 3-7, bon, il y a peut-être pas le feu et encore aujourd'hui quoi.
Je suis pas d'accord parce que il a pris 6-1 dans le troisième set et on l'a pas reconnu. On a vu un mec en souffrance, quasiment comme bloqué, tu vois, dans une troisième manche où les jambes n'avançaient plus. Là, on s'est vraiment inquiété. Alors, quelques jours plus tard, un journaliste italien a interrogé son coach, Goran Ivanovic, qui lui a dit, il était malade, on s'attendait pas à grand chose ici. Est-ce que c'est du pipeau? Je ne sais pas. On va commencer à voir un peu plus clair la semaine prochaine puisque Djokovic, lui, joue son tournoi à Belgrade, mais attention, il y a du monde. Il peut très bien jouer Dominic Thiem dès le deuxième tour. Il peut jouer Rublev en finale. Donc il y a un sacré plateau à Belgrade. Donc là, s'il se trouve encore une fois, on va peut-être pouvoir tirer le signal d'alarme. Mais il y a encore du chemin. C'est vrai que le fait qu'il n'ait pas joué du tout quasiment de l'année, je pense, Olivier, toi tu peux en parler peut-être. Cette affaire en Australie, ça te remue quand même parce que ça, t'es passé du paradis à l'enfer, finalement tu peux pas jouer, t'es renvoyé comme un voleur à l'aéroport. Ça remue un homme quand même, si t'es numéro un mondial.
Ouais, t'as totalement raison. Tu sais, quand tu es un métronome comme lui, où tu calcules tout, au moindre gramme de ce que tu manges, les minutes que tu dors, et pour être à son niveau optimum, il a besoin de tellement de choses qu'aujourd'hui, les facteurs aléatoires, comme la manière dont il est perçu dans le monde aussi, on le voit pas, mais ça l'affecte énormément, et que pour revenir au meilleur niveau, c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, on se pose vraiment la question si il revient à Roland, comment il sera accueilli?
C'est une bonne question.
Bon, en tout cas, c'est dans la tête plus que dans le corps a priori, Eric. Ce que nous dit le problème pour l'instant pour Djokovic. Hein.
Écoute, je souhaite qu'il ait raison, mais je te dis, on va être fixé très vite, Belgrade, ensuite il y aura les deux Masters 1000, le programme il change pas, c'est Madrid d'abord début mai, suivi de Rome, donc là normalement à Rome on devrait avoir tout le gratin au Foro Italico. C'est toujours une épreuve qui est très prisée, en plus ce sont les conditions de jeu qui se rapprochent le plus de Roland Garros, donc voilà, le chemin, le printemps va être très très intéressant, mais pour l'instant on n'a aucune certitude. Si, la seule certitude c'est que Tsitsipas rejoue très bien sur terre battue, et on n'oublie pas qu'il avait fait finale l'an passé à Roland, donc il est d'ores et déjà l'un des favoris pour le titre.
Finale contre Djokovic d'ailleurs.
En 5-7.
Merci Eric Saliou en direct de ce Masters.
Ah bah c'est lui, on parle pas des Français.
Bon, ça peut être vite fait, vas-y parlons-en des Français.
Non, c'était une édition historique puisque il n'y a pas un qui était au deuxième tour.
Voilà. Donc, c'est déjà arrivé ça, Eric?
Pardon?
C'est déjà arrivé ça?
Non, depuis 77.
Mais bon. Voilà, quand même. Hein.
Alors que on fêtait, enfin, entre guillemets, les 20 ans, je me souviens de la victoire de Gasquet en 2002. Oui. À 15 ans,
pas été invité. Qui n'a même pas été invité, puisque, vous savez, les invitations ici sont très politiques. Ils ont préféré David Goffin, qui a une petite maison ou un petit appart dans le coin.
Et voilà.
Bizarre ça. Gasquet qui avait gagné il y a 20 ans à 15 ans, il donnait le plus jeune vainqueur d'un Masters.
Et bon, ça tient toujours.
Merci Eric, donc c'est Barcelone la semaine prochaine
Barcelone et Prague et Belgrade, pardon.
Merci Eric, passe une bonne soirée. Salut, à très vite. On va continuer de monter en puissance sur RMC en vue de Roland-Garros dans un peu plus d'un mois. 19h43, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud, avec dans un instant l'invité Juan Imhoff, l'ailier du Racing 92, qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup. Et puis on ira faire un tour au Parc des Princes dès qu'on a les compos de ce Paris Saint-Germain OM. Elles seront ici sur RMC. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Avec Olivier Giraud jusqu'à 20h. Merci d'écouter le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Et puis à partir de 20h, bien sûr, ce sera l'after. Émission et soirée exceptionnelle sur RMC autour du dernier match de la 32e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain-Marseille. Dans un instant, l'invité du Sport Show, Juan Imhoff, le lié du Racing 92, qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup. Ça a été dur hein, dans le derby aujourd'hui face au Stade Français, peut-être un peu plus que prévu. Est-ce qu'ils se sont vus un peu trop beaux, trop vite? On peut posera la question à Juan Imhoff. Mais d'abord, comme prévu, on va faire un petit tour au Parc des Princes à nouveau.
RMC Sport Show.
La Minute Foot.
Dans une heure, ce sera parti, ce Paris Saint-Germain-Marseille, et ce sera sur RMC avec Jeannot Rességuier, la voix du foot, bien sûr. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Les compos dans quelques instants avec toi Jeannot, mais d'abord raconte-nous l'ambiance, on l'entend derrière toi.
Calme, c'est très très calme.
Il n'y a pas d'ambiance justement.
Ah oui, non, il n'y a pas d'ambiance du tout. Alors côté virage Auteuil, il y a le bas du virage qui est vide, donc certains supporters sont dans les coursives. La banderole, pardon, rouge et bleu, virage Auteuil 1991 est volontairement mis à l'envers, on le rappelle, les supporters boycottent depuis l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Pas d'apaisement malgré le classique de ce soir, et on attend de voir comment ça va réagir. Est-ce qu'ils vont profiter de l'aspect médiatique du match pour tenter quelque chose? On verra, mais en tout cas le message a du mal à passer entre les supporters et la direction, même si on a changé de président pour le CUP, le collectif Ultra Paris, pour essayer justement d'apaiser les choses, avec notamment quelqu'un qui, Romain Maville en l'occurrence, était président de ce CUP en 2020. Donc voilà, la situation elle est un petit peu bizarre. C'est vrai que dans un avant-match pour un classique, il y a un peu plus de bruit que ça. Il y a déjà un peu plus de monde que ça. Alors voilà, c'est un week-end pascal, mais il y aura 47 000 spectateurs, hein, c'est annoncé, sans la présence des supporters marseillais. Ça a été annoncé tout à l'heure par le délégué du match. Et on attend donc patiemment de voir comment ça va se passer. L'arrivée du bus marseillais, bon, a été sifflée copieusement. L'arrivée du bus parisien a été, on va dire, un peu ovationné, mais c'est pas non plus, encore une fois, l'histoire du grand amour, quoi.
Olivier.
Ouais, Jeannot, on a l'impression que, en fait, ce match, il est pas très important pour les Parisiens, mais ça serait pas plutôt le match le plus important où il faut vraiment pas que les Parisiens se loupent?
Ça ressemble à ça, effectivement. Alors, c'est peut-être pas le plus important pour les Parisiens, dans le sens où il y a ce classement avec 12 points d'avance, qui viennent de cogner Lorient 5-1, d'aller gagner à Clermont 6-1. Voilà, là, c'est une référence du championnat, ils sont deuxième, même s'il y a une différence de points entre les deux. C'est ce soir justement où ils doivent montrer qu'ils sont capables de bien finir la saison et de ne pas se louper sur le classique, accroché, on le rappelle, au match aller 0-0, et de voir comment cette équipe de Paris va être capable de bouger une équipe comme Marseille, qui est en pleine réussite. On le rappelle, 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, à part Milik, qui n'a pas fait le déplacement. C'est une équipe au complet dont dispose Sampaoli. Sans Milik, ils ont quand même enchaîné 4 victoires consécutives. Donc voilà, il y a pour les Parisiens l'occasion de montrer que sur ce match-là, qui est le match attendu, on va dire, en France, tant à l'aller qu'au retour, sur ce match-là, ils ne vont pas se louper.
Jeannot, j'ai vraiment l'impression que ce match est différent. C'est la première fois, tu sais, dans les médias, il n'y a Il y a pas trop ce trash talking qu'on est habitué à voir, pas trash talking, mais en tout cas on s'envoie des petites invectives. Il y a que Payet qu'on a envoyé une petite. J'ai trouvé les Parisiens vraiment très calmes et ça donne une impression de fébrilité pour la première fois depuis très longtemps.
Toi tu parles de fébrilité, moi je pense qu'ils sont un peu détachés par rapport à l'importance de l'événement. On est sur un classique, on n'est pas sur un classico Real Barcelone. On est sur quelque chose. Alors ça n'engage que moi ce que je vais dire là, mais on est sur quelque chose qui a été fabriqué médiatiquement les années en arrière, la fin des années 90, à l'époque Tapie Deniso. D'ailleurs, Michel Deniso a tweeté une belle photo avec Bernard Tapie sur le coin de son épaule, rappelant justement que c'est un soir de match particulier. Mais là, on est sur un contexte où le PSG est éliminé de la Ligue des Champions et où l'Olympique de Marseille était cette semaine, en tout cas, préoccupé pour aller chercher une place dans le carré, le dernier carré de l'UEFA conférence. Donc, ça veut dire quelque part que il y en a un qui enchaîne les matchs, il y en a un qui est concerné par une actualité tous les trois jours, et l'autre qui n'a plus du tout d'actualité européenne et qui est obligé de finir la saison, je dis pas en roue libre, mais de finir la saison en essayant encore une fois de faire oublier cette élimination en Ligue des Champions et en allant chercher l'étoile, la fameuse étoile qui est attribuée aux équipes. Il y en a qu'une, c'est Saint-Etienne dans l'histoire du foot français, à avoir gagné 10 titres.
Oui, d'ailleurs, petite précision. D'ailleurs, on fait un peu ce qu'on veut sur ce truc-là, Jeannot, sur l'étoile, mais.
J'ai entendu dire qu'il ne la mettrait pas.
Ouais. Mais c'est l'étoile, parce que c'est vrai qu'on a souvent en tête l'étoile de champion d'Europe. Marseille a choisi de la mettre, mais c'est pas. T'es champion d'Europe, t'as une étoile, c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, Saint-Etienne en a une pour les 10 titres de champion de France.
Exactement. Tout à fait. Mais ça veut dire quelque part que si ça a été inscrit dans le patrimoine du football français, et c'est le cas avec Saint-Etienne, je vois pas pourquoi Paris bouderait. Il n'y a pas d'obligation, je suis d'accord, mais ce serait dommage quoi. Mais en tout cas, sur le papier, ils ont la possibilité d'être avec Saint-Etienne le club le plus titré de l'histoire du football professionnel.
Alors vous êtes sur RMC, c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud, avec Jeannot au Parc des Princes. Bon, pour tout vous dire, on est en train d'essayer de joindre Juan Imhoff, l'ailier du Racing 92. Il sort de la douche là, donc il arrivera d'une minute à l'autre, mais c'est pas grave, on en profite.
La compo vient de tomber là, le Paris Saint-Germain, avec Donnarumma, avec Hakimi, Kimpembe, Marquinhos et Nuno Mendes, Verratti, Danilo Pereira, Gueye, donc il n'y a pas de surprise, avec Mbappé, Neymar et Messi devant. Je vous la livre comme elle vient d'arriver à l'instant même sur notre écran. Avec Arnaud Valadon, pas de surprise pour le PSG.
Ramos.
Pas de Sergio Ramos, non. Il est sur le banc des remplaçants puisqu'il était sur le groupe. Donc toi aussi, tu faisais partie de ceux qui pensaient que peut-être pour ce match-là, Pochettino tenterait la défense à 3 avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe, Olivier.
Bah ouais, un mec qui pourrait bouger tout le monde cas où ça se bouge pas assez.
Alors pour le Paris Saint-Germain, pas de surprise. Pour Marseille, la confirmation de Paulo Lopez qui sera dans les buts. Ah. Donc voilà, trois matchs consécutifs pour Steve Mandanda et le retour de Paulo Lopez dans le but. Saliba avec Luan Perez, Tchaletassar et Rongier, si on part sur la base d'une défense à 4 mais qui est très évolutive. Le milieu de terrain avec un Camara qui sera dans le rôle d'une pseudo-sentinelle mais capable de reculer entre justement Saliba et Tchaletassar. Guendouzi d'un côté, Gueye de l'autre, avec Gerson sur le côté gauche, Dimitri Payet et le brassard de capitaine dans l'axe, et donc le Turc Under sur le côté droit. Il y avait le point d'interrogation, pas dans l'organisation mais dans la présence des joueurs entre Harit, Gerson et Gueye. Voilà, on a la réponse. Donc j'ai envie de dire là aussi pour l'Olympique de Marseille, pas vraiment de surprise dans les choix de Sampaoli.
Jeannot Rességuier en direct du Parc des Princes.
Appelez-moi
merci Jeannot.
Conforama, comme Wikea.
Ah mais non, mais attends, on a eu les...
J'ai meublé comme j'ai pu.
Les compos en direct comme ça qui tournent, c'est magnifique. Rendez-vous dans moins de 10 minutes.
Je vois Olivier sourire, c'est pour ça que je dis ça.
Ah, je souris.
Il sourit, mais il sourit tout le temps, Olivier. L'after pour analyser justement en détail ces compos autour de Gilbert et la Dream Team. À tout de suite, Jeannot sur RMC, 19h53. Effectivement, il est là, l'ailier du Racing 92.
L'invité du RMC Sport Show.
Bonsoir Juan Imhoff.
Bonsoir à tout le monde.
Qualifié.
Bonsoir en ligne.
Qualifié, merci à toi d'être avec nous pour les quarts de finale de la Champions Cup. Bon, t'as vu, on était sur le foot, t'as entendu peut-être PSG-OM. Bon, est-ce que même quand on est rugbyman comme toi, c'est un truc qui te chauffe? Tu vas regarder ce soir ou écouter?
Bien sûr. Je cite même d'y aller au stade, mais bon, ma femme est là-bas bientôt couchée, donc je pense que c'est pas top. Parce qu'à tout moment, le petit sort aujourd'hui. Donc, j'aime beaucoup le foot, ces matchs, bien sûr. je pouvais le regarder à la télé.
Et quand on joue au Racing, on est obligé de supporter le PSG ou c'est comment?
Oui, je vois exactement. On va dire je me prends pour un Parisien, donc je supporte le PSG.
Juan Imofuli du Racing 92 dans le RMC Sport Show. Juan qualifié pour les quarts de finale, donc en rugby, de la Champions Cup, après une victoire face à Paris, le stade français en tout cas. Victoire 33-22 en huitième de finale retour. Là, il y a un peu moins d'une heure après la victoire 22-9 à l'aller. Déjà, ton sentiment d'être en quart de finale, j'imagine pas une explosion de joie, peut-être juste le sentiment du devoir accompli.
Oui, tout à fait. Pour nous, c'était l'objectif d'y aller, de jouer des phases finales, donc de jouer la finale de la Coupe d'Europe. C'est quelque chose qui nous tient à cœur à toute l'équipe, tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est un étage de plus, un pas de plus qu'on avait fait vers cette Coupe qu'on a envie. Après, sur le contenu, bien sûr que voilà, je suis un peu déçu encore. On est un peu déçu parce que c'est pas vraiment le Racing qu'on voit souvent en Coupe d'Europe. Donc voilà, je pense qu'il y a encore une marge de progression. Mais il faut pas non plus négliger qu'on est encore une fois un quart de finale de Coupe d'Europe. Quoi.
Olivier Giraud.
Juan, c'est pas compliqué de jouer trois fois la même équipe, surtout avec à chaque fois des ambitions et des importances différentes. C'est-à-dire que le premier match, c'est pour être dans les 6 et laisser les 6 du top 14 et laisser Paris derrière. Après deux matchs aller-retour totalement différents en Coupe d'Europe, est-ce que c'est compliqué à chaque fois de se réinventer quand on joue la même équipe?
Tout à fait. Je pense que t'as très bien expliqué les choses. Très, très, très compliqué. On a l'impression d'avoir passé 3 semaines, mais on a l'impression d'avoir fait 6 mois. Parce que tout était très long, parce que c'est une équipe qu'on a déjà joué une fois et donc deux coups, 3 fois d'affilée. Donc voir les vidéos, ça, à la fin, franchement, on les connaît de mémoire. Quoi. C'est regarder des vidéos toute la semaine, s'entraîner. Franchement, c'est très compliqué, on va dire, de côté mental. Mais voilà, c'est pour ça qu'aussi on a de la joie, parce que c'est l'objectif, il est accompli et que franchement on a pu le faire, mais que si je souhaite pas que ça arrive encore une deuxième fois. Quoi.
Bon, c'est pas prévu en tout cas pour l'instant. Juan Imofuli du Racing 92 est en direct sur RMC. Et c'est vrai que ça a été 3 matchs différents, Olivier le disait, en top 14 il y a 15 jours, vous leur en avez mis 50. Il y a une semaine en 8e de finale aller de Champions Cup, vous avez dominé le Stade français 22-9. Et aujourd'hui, ça a été compliqué, le Stade français était pourtant à 14. Ils étaient devant à la mi-temps, les Parisiens. Est-ce que vous n'êtes pas vu un peu trop beau, trop tôt, le Racing, Juan?
Je ne sais pas si il est beau de se voir. Le mot, c'est pas de se voir beau. C'est au contraire. Moi, je pense que c'est quand même féliciter l'équipe de Stade français qui, après avoir pris 50, avoir perdu chez eux, ils ont continué, ils ont progressé, ils ont fait des choses qu'aujourd'hui, ils nous sont malmenés pendant un moment. Pendant la première mi-temps, on n'a pas eu des solutions comme on arrive à faire. Souvent, nous, on a fait des très bons entames des matchs. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et franchement, le Stade français, il montre de caractère, sachant et il jouait vraiment pas beaucoup, pas grand chose, parce que la qualif, on va dire la vérité, avant que le match commence, ça a été très compliqué. En fait, ça s'est voyé très compliqué pour eux. Donc je pense que c'est quand même une leçon pour nous, parce que ça nous laisse quand même un goût amer. Et donc du coup, ça veut dire qu'on va faire des bonnes préparations, parce que sinon on aurait gagné les 3 matchs de 50 points. Là, je te rassure qu'on sera plus beau.
Olive,
Juan, tu parlais de préparation. C'est peut-être là que va se jouer la fin de la saison, parce que entre les internationaux qui ont fait un gros tournoi destination, leur retour qui vous a fait certainement du bien, et l'enchaînement Coupe d'Europe, championnat, en espérant se qualifier, parce que c'est toujours pas fini. En fait, la saison a fait que commencer pour vous.
Et tout à fait, j'en parlais la semaine dernière, je disais que bon, peut-être c'est ça qu'on aime, le Racing en fait a tellement de joueurs d'expérience, tellement de grands joueurs, qu'à la fin je pense que les mecs ils s'adorent être dans ces situations-là, c'est-à-dire que dans la situation dans laquelle tu joues tous les week-ends pour quelque chose, donc c'est, tous les matchs sont importants,
et ce sera
tous les points sont importants, donc
en quart de finale, dans 3 semaines. Merci Juan Imhoff d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne soirée et bon PSGOM alors, hein, Juan.
Évidemment, merci beaucoup. Merci
bonne
beaucoup.
Bonne soirée, merci aussi d'avoir été en direct sur RMC. Olive, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas vu, hein. On y va. Il y a du monde qui attend derrière.
C'est l'after qui arrive dans un instant.
Exactement.
Hubert Bribois, Kevin Diaz, Sébastien Piocel, Paris Saint-Germain, OM, l'analyse des compos qui viennent de tomber. Vous les avez eu sur RMC. C'est à suivre. Et ce sera donc l'événement ce soir, 20h45, Paris Saint-Germain, Marseille. Merci Olive.
Merci Thibault.
Bonne soirée tout le monde. Ciao.
Ciao.
RMC, l'after, le match.